Vous allez écouter Paroles de Femmes, le rendez-vous pratique pour aider les femmes à mieux vivre leur quotidien. Cette émission est réalisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Ventoux, Cantavénessin et la ville de Carpentras.
Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur RTVFM. Vous nous écoutez sur le 102.2 et le www.rtvfm.net et c'est la deuxième émission de la saison pour Paroles de Femmes. Et je suis accompagné, comme d'habitude, de mes collaboratrices qui s'appellent Renée. Bonjour Renée, comment vas-tu ?
Bonjour Alain, ben écoute, je vais superbement bien.
Merci Renée, j'ai également juste à côté de toi Josie. Bonjour Josie.
Bonjour Alain, bonjour à toutes.
Et également Mounia. Bonjour Mounia.
Oui, bonjour Alain, bonjour à tout le monde.
Alors c'est la deuxième émission de la saison et une émission un petit peu spéciale puisque nous sommes le 8 mars. Et René, le 8 mars, ben, tu vas nous dire en quoi ça consiste. Le 8 mars, c'est une date très importante.
Oui, le 8 mars, ben, c'est notre journée, c'est la journée des femmes. Voilà, le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. La Journée internationale des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer chaque année.
Et oui, et nous, RTVFM, on se devait effectivement cette date importante également de, à notre manière de la célébrer. Et pour parler justement de cet événement et des femmes en général, nous avons des invités, pas mal d'invités autour des micros que nous allons vous présenter. Nous avons d'abord Assia Roubia, qui est éducatrice spécialisée à la Association Amado. Bonjour Madame Roubia.
Bonjour.
Merci de venir participer à cette émission.
Avec plaisir.
Également, nous avons Ilham, qui est une résidente de l'association justement Amado. Bonjour Ilham.
Bonjour.
Merci également de venir participer à cette émission.
Avec grand plaisir.
Juste en face de vous, nous avons Léa. Léa, qui est également résidente à l'association Amado. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Bonjour Léa.
Bonjour.
Et nous avons également Daniel Mann, de l'association AED Karine Mann et l'association Femmes Solidaires. Bonjour Daniel et merci de ta fidélité. Puisque l'année dernière, déjà, tu as été dans le numéro le 8 mars, dans l'émission aussi Paroles de Femmes de l'année dernière.
Oui, merci surtout de cette initiative qui est fort importante.
Merci, c'est surtout toi par rapport à tout ce que tu organises. On aura l'occasion de parler du déroulement de l'ensemble de la semaine consacrée justement aux droits des femmes sur Carpentras que tu réalises maintenant depuis quelques années. René.
Et je dois dire, nous avons un tout petit invité de 2 mois qui s'appelle Hugo.
Et oui, qu'on a dû entendre dans les micros. Nous avons effectivement un bébé de 2 mois qui est Hugo, qui est dans le bébé de Léa. Alors, on va démarrer cette émission peut-être par l'association Amado pour présenter un petit peu l'association Amado. Alors, Assia Roubia, vous êtes éducatrice spécialisée dans cette association.
Oui.
Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter l'association Amado ?
Oui. Alors, l'association Amado est donc située sur Carpentras. Elle existe depuis plus de 10 ans maintenant. Nous sommes une toute petite structure puisque nous accueillons donc 7 résidentes et nous sommes 2 travailleurs, travailleuses sociales au quotidien. Donc Emma Moali qui est coordinatrice et conseillère en économie sociale et familiale et moi-même donc éducatrice spécialisée. Nous avons 150 adhérents à peu près et nous travaillons avec un grand nombre de bénévoles. Donc on a pas mal de bénévoles qui nous soutiennent et qui nous aident au quotidien, qui peuvent participer effectivement à certains accompagnements. Donc c'est une association qui accueille et héberge des femmes enceintes en difficulté, donc des femmes majeures. Nous avons donc 4 appartements et 7 places. Donc les femmes sont vivent en colocation, elles ont leur propre chambre, mais elles vivent en colocation. Nous avons la possibilité aussi de les suivre après. C'est important de préciser.
Après la
sortie d'Amado,
oui.
Parce qu'on les accompagne souvent vers un appartement autonome et nous continuons à les accompagner même après.
Alors là, actuellement, devant les micros, nous avons deux résidentes actuelles, mais vous, comme vous venez de le dire, vous suivez aussi les résidentes qui ont quitté Amado. Vous les suivez pendant combien de temps encore ?
À peu près 6 mois renouvelables, donc on va dire en moyenne, jusqu'à 1 an même après le départ d'Amado.
Alors le rôle d'un éducateur spécialisé au sein même de l'association Amado ?
Alors moi ça va être centré sur tout ce qui est donc la parentalité, la grossesse, donc je les accompagne dans leur suivi de grossesse. Je suis assez attentive à ça parce qu'on a eu pas mal de situations où des femmes sont arrivées, elles n'avaient aucun suivi, donc voilà, ça fait partie de mes missions, le suivi médical donc pour la maman mais aussi pour le bébé quand il est là, et les soutenir dans leur parentalité tout simplement, parce que pour la plupart elles sont parents pour la première fois. Oui. Et donc elles ont besoin d'être aiguillées, d'être soutenues, d'avoir des conseils, parce que souvent l'entourage familial ou amical est
plus ou moins inexistant, voilà, n'est pas présent. Donc un rôle social, éducatif, psychologique.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une grande part d'écoute quand on les accueille. Il y a aussi l'écoute qui est très importante en fait quand elles arrivent à Mado, que ce soit de la part de nous, les travailleurs sociaux, mais aussi les bénévoles. Quand des bénévoles interviennent, des fois ils interviennent juste pour échanger, pour passer un moment avec elles, et puis voilà, être très à l'écoute, elles en ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de solitude quand même, elles sont assez isolées, et puis c'est important d'apporter
une aide,
mais psychologique, mais aussi après
administrative peut-être également.
Oui, alors ça c'est plus Emma Moali, donc qui est CESF et coordinatrice, elle les accompagne dans tout ce qui est administratif, parce qu'effectivement il y a tout ce qui est ouverture de droits à réaliser, tout ce qui est aussi préfecture, elle les accompagne à la préfecture, parce que pour certaines elles ont un titre de séjour ou seulement un récépissé qui demande à être renouvelé tous les mois, donc c'est aussi lourd pour elles, c'est une situation aussi stressante, donc elles ont besoin d'être accompagnées dans cette démarche. Et puis après, tout ce qui est recherche au logement aussi, c'est avec l'aide d'Emma qu'elle réalise ces démarches. J'ai oublié de parler tout ce qui est socialisation. C'est important on met un point d'honneur avec Emma à l'ouverture sociale, mais aussi culturelle, donc on essaie de les faire participer un maximum à tout ce qui se passe sur Carpentras, parce que sur Carpentras il s'en passe des choses quand même, il y a pas mal de d'associations culturelles, des choses qui sont apportées de main, qui sont pas forcément payantes et qui peuvent où elles peuvent participer.
René.
Oui, Asia vous dit que vous recherchez un peu des bénévoles pour votre association. Qu'est-ce que vous attendez d'une bénévole justement au sein de votre association? Parce que c'est intéressant ce que vous parlez, les bénévoles, j'en connais pas mal qui veulent faire du bénévolat dans beaucoup d'associations, mais qu'est-ce que vous attendez justement dans votre association vis-à-vis de ces personnes d'une bénévole?
Alors nous on n'attend pas grand chose, c'est-à-dire qu'on fait vraiment en fonction, c'est le bénévole qui vient et qui nous dit moi j'ai ça à apporter. On a des bénévoles qui ont des, voilà, elles viennent avec leurs compétences. On a des bénévoles qui nous disent moi je peux vous proposer un atelier tricot, c'est ce qui se passe en ce moment, un atelier relaxation, c'est ce qui se passe en ce moment, je peux accompagner les mamans, les résidentes à l'épicerie sociale, c'est ce qui se passe aussi. Chacun vient avec ses compétences, nous propose, nous on en général, on essaie de tout faire pour mettre en œuvre les propositions. Et certains bénévoles sont juste, de temps en temps, viennent nous déposer des dons, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment, chacun intervient avec ses possibilités, ses compétences. Et après, on attend tout simplement de la discrétion de leur part.
Bien sûr.
On n'attend rien d'autre.
Alors, ce sont des activités également collectives pour que les personnes se retrouvent entre elles.
Oui.
Que ça crée des liens.
C'est ça, exactement.
Pour qu'elles puissent échanger aussi.
Oui. Tout dépend aussi de la personnalité, du vécu de chacune, mais parfois elles n'osent pas aller entre elles, enfin venir aller à la rencontre de l'autre alors qu'elles sont dans la même résidence, elles sont dans le même lieu, et effectivement c'est cet atelier collectif qu'on essaie de mettre en place assez régulièrement, par exemple toutes les 3 semaines ou même toutes les semaines pour l'atelier tricot, elles permettent de se rencontrer, d'échanger, de passer un bon moment et de sortir de la solitude, et voilà.
On l'a bien compris, Asia, donc Roubia, l'équipe respecte bien sûr, vous l'avez bien dit, les silences et les vécus de chacune, sans poser de questions inutiles, c'est ça aussi.
Oui,
on ne pose
oui.
pas de questions quand la personne tape à votre porte, qu'elle vient vers vous.
Oui, c'est vrai que je trouve que c'est un peu la particularité d'Amado. Le fait qu'on soit une petite structure, qu'on soit deux, c'est assez, ça fait comme un petit cocon. En fait, on crée un cocon autour d'elle. On essaie d'être le plus discrète possible avec Emma concernant leur histoire, leur vécu. Alors, on attend, souvent c'est elle qui viennent nous voir et qui nous parlent de leur vécu, de leur histoire, de ce qui leur pèse. Et c'est là où l'écoute est très très importante, parce que parfois voilà, il suffit juste d'une oreille tendue pour quand elles sentent vraiment qu'elles sont à l'écoute, elles osent parler, elles osent se confier.
Eh bien, on reviendra vers vous tout au long de cette émission pour justement continuer à échanger sur le rôle de votre association, oui, qui est quand même assez important, hein, accompagner la personne dans les différentes étapes de la grossesse, favoriser le lien mère-enfant, soutenir les jeunes femmes dans leur parentalité, accompagner chacune dans l'accès aux droits, aux soins, au logement, à la formation et à l'emploi. Mm-hmm. C'est quand même vraiment quelque chose de très louable au sein de votre association. On se fait, si vous permettez, une petite pause musicale et puis après on rentrera un petit peu, on verra les témoignages donc de nos deux invités, plus aussi Daniel Lehmann qui viendra nous parler de la semaine du droit des femmes qui se déroule à Carpentras en ce moment. On se fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après. À tout de suite.
Parole de femmes, le rendez-vous pratique pour aider les femmes à mieux vivre leur quotidien.
Et bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTVFM, Parole de Femmes, deuxième émission de la saison pour cette émission, on peut le dire, Parole de Femmes, qui est consacrée, nous sommes le 8 mars, qui est consacrée à la journée sur le droit des femmes, n'est-ce pas René? Tu nous as rappelé
oui,
en
fait,
début d'émission l'importance et de tout ce qu'on a encore à faire, de tout le chemin que nous avons encore à parcourir
aujourd'hui,
pour le droit des femmes,
fait
pour l'égalité hommes-femmes, femmes-hommes, du moins.
Oui, aujourd'hui, on a fait un grand pas, mais il y a encore de grands, grands pas à faire. Hein.
Et ça peut-être, on peut, alors nous avons, je vais quand même rappeler d'abord nos invités autour de la table. Nous avons Assia qui est éducatrice spécialisée, nous avons Ilham qui est résidente actuelle à l'association Amado, puisque Assia représente l'éducatrice spécialisée à l'association Amado. Nous avons Léa qui est résidente également à l'association Amado. Nous avons Daniel Mann qui est la présidente de l'association AED Karine Mann et association Femmes Solidaires. Et bien sûr René, Josie et Mounia présentes avec moi dans cette émission Parole de Femmes. Alors justement Daniel, on parlait de l'importance du chemin encore à parcourir, du chemin qui a déjà été parcouru et du chemin à parcourir. parcourir. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
Ben, le chemin parcouru est très important, puisqu'on a, mais il n'est pas si lointain que ça, hein, quand on regarde l'histoire des droits des femmes. Hein, moi, je correspond à la période où on a pu voter pour la première fois, et c'est mon âge. Donc, quelque part, je trouve qu'on a marché un petit pas. Mais je suis quand même un peu inquiète, même malgré avec tous les efforts et les progrès qui sont faits, je trouve que dans certains domaines, il y a une régression. Et je pense qu'il faut être d'une très, très grande vigilance aujourd'hui, très attentif à tout ce qui se passe autour de nous, parce que c'est pas toujours très... très beau.
Très beau. Alors, sans faire de politique aucune, est-ce que actuellement les décisions qui sont prises depuis quelques années, je dirais depuis les gouvernements qui se succèdent, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que nous avons des ministres qui prennent un petit peu à bras le corps ce dossier un petit peu du droit des femmes, de l'égalité femmes-hommes?
Alors peut-être qu'il est pris à bras le corps, mais pas forcément comme je l'entends, hein, dans la mesure où c'est pas en faisant du bruit et en montant en mayonnaise que quelque part les choses vont avancer. Je pense qu'Amado dans son coin fait beaucoup plus. Au point de vue local, que oui, oui, il y a des choses de fait, mais je trouve que quelque part, elles sont assez superficielles. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une efficacité, qu'on n'est pas dans oui, on promet, oui, on verra, oui, on attend. C'est aujourd'hui ou jamais, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et quand on se rend compte de tout ce qui se passe, des femmes violées, des incestes, de la violence conjugale qui est quand même, il ne faut pas oublier qu'une femme tous les 3 jours meurt sous les coups de son compagnon. Hein. C'est quand même encore, et ça n'évolue pas, hein, je veux dire, ça n'a pas diminué à moi, c'est toujours le même nombre. Et moi, je lis aussi à ces droits des droits de la femme, je lis aussi les droits de l'enfant. Et autour de la table, on aura des mamans qui sont aussi là, enceintes ou avec un enfant. Et je crois que le droit des enfants doit être absolument lié au droit des femmes, au droit de la mère. N'oubliez pas qu'en 2019, nous sommes pour les 30 ans, on a signé les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Et on peut dire que là aussi, il y a pas beaucoup d'avancées.
Merci Daniel, on reviendra vers toi de toute façon au cours de cette émission. On va passer, parce que c'est quand même un petit peu ce qui est important dans cette émission, c'est d'avoir des témoignages. Alors je voudrais avoir le témoignage d'Ilham. Alors Ilham, rebonjour déjà.
Bonjour.
Alors vous êtes actuellement soutenu par l'association Amado.
Exactement.
Alors comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est présenté? Comment avez-vous frappé à la porte d'Amado?
En fait, j'étais pas au courant de l'association parce que j'ai jamais entendu parler. Et c'est au moment où j'avais un rendez-vous avec une sage-femme pour les premiers mois de ma grossesse. C'est là où elle m'a parlé de Amado. C'est là où elle m'a conseillé. Elle m'a dit que voilà, faut pas rester comme ça, faut pas
Je vous coupe justement. Pourquoi est-ce qu'elle vous a conseillé l'association Amado dans votre parcours de vie, dans ce que vous étiez en train de vivre, vous étiez en difficulté?
Par rapport à mes problèmes, ce que j'ai vécu, ce que j'ai passé en fait. C'est j'arrivais pas à tenir avec mon conjoint et c'était vraiment insupportable.
Alors, on le précise, vous êtes enceinte de 5 mois, c'est cela ?
5 mois, oui.
De 5 mois. Oui. Donc, à partir de à quel moment vous vous êtes senti un petit peu, justement, sous l'emprise, vous dire comment je vais pouvoir réagir ? Est-ce que cet enfant, je vais le garder ou pas ? Est-ce que ça vous est venu à l'esprit à un moment donné ?
C'était ma décision, c'était le premier mois, quand j'ai appris que je suis enceinte, j'ai décidé de le garder.
De le garder.
Je n'ai pas posé de question du tout.
Donc, ça, vous l'avez complètement, voilà.
Ça, oui.
Et par contre, à quel moment, justement, c'est au premier mois que vous avez commencé à chercher de l'aide un petit peu, que vous êtes posé des questions sur votre vie,
c'est
sans,
à
votre vie
C'était à mon deuxième mois, c'est ma sage-femme qui m'a parlé de l'association.
Oui.
Et elle s'est manifestée, elle m'a pris un rendez-vous avec eux. Donc elle m'a conseillé d'aller voir l'association, c'est très bien. Et ils sont là, franchement, c'est très bien.
Alors, sans rentrer dans les détails de votre vie de couple, c'était vous subissiez des violences verbales, ça se passait comment avec votre conjoint? Vous arriviez plus donc à rester avec lui, comment ça s'est passé?
C'est normalement une femme, elle a besoin d'un homme dans sa vie, surtout en période de grossesse. Et je me suis retrouvée toute seule. C'était
donc le futur papa n'assumait pas son rôle?
Non, il n'assume pas du tout.
Ouais.
Il m'a laissé tomber. C'est tout.
Donc là, vous êtes retrouvé en rupture seule avec l'enfant que vous souhaitiez garder.
J'étais avec lui, chez lui, donc je me suis retrouvée à la rue. C'était pas évident à vivre.
Josie.
Oui, et aujourd'hui, donc avec le recul et tout, vous pensez donc quand même avoir pris la bonne décision finalement?
Ah oui, ça c'est franchement, je me sens très très bien chez Amado. Ils sont là, ils m'accompagnent. Avant, je faisais pas mes papiers, j'arrivais même pas aller faire parce que je ne sais pas quoi faire. Et elle m'accompagne, tu sais, surtout Madame Assia, elle est là, franchement, elle ne me lâche pas.
Et est-ce que, comment pensez-vous que vous auriez pu continuer cette vie sans Amadou? Qu'est-ce que vous auriez pu faire?
Aucune idée.
Donc, ça a été la bouée de sauvetage, Amadou.
C'est la main tendue.
La main tendue, oui, très bien dit.
Exactement ça. J'ai trouvé d'espoir.
Vous avez trouvé l'espoir.
Oui.
Est-ce qu'actuellement, qu'est-ce que vous pourriez dire aux mamans, justement, qui se retrouvent dans votre situation, en dehors du fait, effectivement, de leur conseiller l'association Amadou, mais qui n'a pas, malheureusement, je dirais, autant d'appartements que le souhaiterait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans votre situation. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez au premier abord?
Il faut pas hésiter. Il faut aller chercher de l'aide. Il faut demander de l'aide.
Oui.
Faut pas rester dans leur coin. Ils font rien. Ils sont là à pleurer, à déprimer. Et des fois, ça arrive. Si une femme, elle est enceinte deux mois, elle part, elle avorte et ça y est, sa vie, c'est ça.
Oui.
Elle part, elle est dans la rue. Bah franchement, je demande qu'elles ne restent pas et elles ont besoin d'aide. Il faut demander d'aide.
Donc le soutien psychologique, le soutien administratif, vous le disiez tout à l'heure aussi, parce que vous étiez tellement... vous ne vous occupiez plus de vos papiers, de la partie administrative, c'était quelque chose que vous aviez
essayé. C'est plus facile.
Ouais.
Avec Amadou, c'est plus facile à faire les papiers. Des fois, on ne sait pas, on ne comprend pas, parce que ce n'est pas nous qui fait les papiers avant. C'était soit le mari ou le conjoint. Et après qu'on se retrouve à la rue toute seule, on ne sait même pas de quoi commencer.
Alors justement, Daniel, l'autonomie de la femme, le côté justement de ne pas laisser le mari tout faire, justement la femme de prendre à bras le corps sa destinée.
Et c'est extrêmement important. Je suis contente que ce soit de jeunes femmes qui en parlent. Mais quelque part, il y a encore beaucoup trop de femmes qui sont sous la dépendance, sous la soumission de leur mari. Et que quand elles se retrouvent seules pour des raisons variées, elles sont paumées parce qu'elles n'ont pas été préparées. Et psychologiquement, elles ne le sont pas et elles sont soumises. Et ce côté soumis, moi, me met très en colère. Et je trouve qu'il faut arrêter, il faut prendre son indépendance sans être dans la féministe fond à fond, quelque part on doit garder son indépendance, on doit être autonome, c'est très important. Et comme disait aussi Selchaliman, qu'il est important aussi de parler de ses problèmes et d'aller chercher de l'aide et oser en discuter. Elles en discutent entre elles, elles ont osé aller vers une association et je pense qu'il ne faut pas rester replié sur soi-même, il faut absolument s'ouvrir. Mais surtout pas dépendre entièrement de son mari. En dehors des difficultés de couple, il peut y avoir aussi des événements, perdre son travail,
le décès du conjoint,
la maladie, d'autres préoccupations, sa propre maladie. Donc quelque part, il faut savoir dès le départ avoir cette autonomie. Je pense que c'est extrêmement important, quelle que soit l'époque et encore plus aujourd'hui, on ne devrait plus être sous cette dépendance.
Alors Mounia. Alors, tu es animatrice chez nous, Mounia, à RTVFM depuis 2 ans. Et justement, toi, tu as un parcours un petit peu... C'est une émission comme celle-ci, tu te retrouves dans ton parcours de vie, hein, puisqu'on se connaît un petit peu maintenant. Qu'est-ce que tu peux justement répondre par rapport à ce que dit Daniel sur l'autonomie de la femme et sur le fait de se prendre en main? Toi, tu as vécu cette partie-là peut-être, où tu étais un petit peu sous le joug de ton conjoint, tu t'es retrouvé un petit peu livré à toi-même. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ton parcours de vie, Mounia?
Elle a complètement raison, Madame Daniel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous parce que d'après mon expérience, je me suis trouvée d'un seul coup toute seule. C'était très, 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 très difficile pour moi. J'avais des problèmes de santé. J'avais aussi mon ex, il était trop violent, conjugal. J'étais tout le temps seule chez moi. Croyez-moi, c'est pas facile. Croyez-moi, c'est pas du tout facile, même si...
On voit que c'est douloureux quand tu le racontes à nouveau, Mounia. Donc, tu l'as vécu, c'est au Maroc que tu as vécu cette... C'était marocaine, hein, Mounia? Non? Marocaine? Oui, t'es marocaine.
Je suis d'origine marocaine. Mon ex, c'est un Français.
D'accord, c'est un Français. Oui, donc, ça s'est passé sur le territoire national. C'est en France que tu as subi ces problèmes-là ou c'est au Maroc?
Non,
ici en France?
C'est en France que j'ai vécu ça. Parce que quand je l'ai croisé au Maroc, il n'était pas... On va dire que j'ai rencontré deux personnages. Hein. Voilà. Celui que j'ai connu ici, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Et c'était très difficile pour moi parce que j'ai travaillé au Maroc, j'ai laissé mon travail, ma famille pour lui. Et d'un seul coup, je me trouve seule. Je connais rien du tout. J'étais très choquée, même quand je tombe, parce que j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de crise d'épilepsie. même quand je suis crise, il me laisse parfois même seule. C'est très difficile. Oui.
Actuellement, on peut le dire, Mounia, tu as maintenant, ça y est, tu es autonome, tu viens d'obtenir un logement neuf sur Carpentras.
Oui.
Tu revis, on le sent, puisqu'on a l'occasion de se rencontrer, d'en discuter. Ça y est, tu viens d'obtenir un superbe logement à Carpentras. Et je vois que René voudrait te poser une question, justement.
Alors, écoute, Mounia, moi, tu me surprends énormément parce que je te côtoie quand même depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, je te trouve lumineuse. Tu as le sourire, tu t'exprimes beaucoup mieux. Je te croise dans la rue, tu traînes plus les pieds, et ça fait du bien de te voir que tu as réussi. Tu as réussi à t'en sortir. Hein.
Merci, c'est gentil. Je tiens à remercier vraiment Alain. Pourquoi ? Parce qu'il m'a donné une chance. Je me rappelle la première fois où je l'ai croisé à Tricadou. Il a dit pas mal de phrases. Et surtout, le jour mon premier enregistrement ici à Serres, il a dit une phrase très importante. Il faut écouter. Savoir écouter. Il faut pas penser à ce qu'on va répondre, mais il faut savoir écouter. Et ça, c'est très important dans la vie.
Il faut avancer, il faut se créer du lien, aller vers les autres. Ouais.
Mounia,
il faut apprendre, il faut toujours apprendre.
Oui. Et puis, je dis aussi même à ces deux jeunes femmes qui sont avec nous là, qu'il faut savoir tenir la main d'une personne au bon moment et prendre tout ce que la personne donne de bon, il faut le prendre. Voilà, et à tous les âges, hein, qu'on ait 60, qu'on ait 80, qu'on ait 100 ans, il y a toujours du bon à prendre. Il faut laisser le négatif de côté et aller vers du positif. Nous sommes des femmes, nous sommes respectueuses de notre corps, de notre mental, et on doit vivre comme on doit vivre, de vraies femmes.
Merci René. En tout cas, on se apprécie deux témoignages de Ilham et de Mounia. On reviendra vers le témoignage de Léa. On se refait une petite pause, on se retrouve juste après. À tout de suite.
Sun goes up. If you come with me through.
écoutez Paroles de Femmes, le rendez-vous pratique pour aider les femmes à mieux vivre leur quotidien.
Et aujourd'hui, le rendez-vous de Paroles de Femmes, c'est dans le cadre de la journée sur le droit des femmes. Nous sommes le 8 mars, je le rappelle, toujours avec Josie, Renée, Mounia, mes collaboratrices et animatrices. Rebonjour à toutes les trois.
Eh bien, rebonjour Alain.
Voilà. Et nous avons
bonjour à tout le monde.
Et toujours nos invités autour du micro. Nous avons Roubia Assia, qui est éducatrice spécialisée. Nous avons Léa, qui est résidente à l'association Amado. Et je précise, Roubia Assia, éducatrice spécialisée à l'association également Amado. Nous avons Ilham, qui est résidente également à l'association Amado, et Daniel Mann, bien sûr, qui est président de l'association AED Karine Mann et association Femmes Solidaires. Nous étions sur les échanges, sur les témoignages très forts aujourd'hui de cette émission un petit peu spéciale sur le 8 mars. Et là, maintenant, nous avons Léa. Donc, Léa, ben, nous aimerions en savoir un petit peu plus. Déjà, rebonjour Léa.
Bonjour.
Alors, Léa, c'est la maman du petit Hugo qu'on a entendu tout à l'heure. Justement, on a entendu les cris de bébé au tout début de cette émission. Alors, quel âge a-t-il, Léa?
Il a deux mois.
Deux mois, Hugo. Alors justement, comme Ilham tout à l'heure, comment ça s'est passé? Comment est-ce que... Alors vous êtes soutenu par l'association Amado. Ça s'est présenté comment? À quel moment vous avez fait connaissance avec cette association? Et comment ça s'est fait?
C'est grâce à mon travail.
Là, vous travaillez avant, vous étiez salarié dans une entreprise. Vous étiez, comment ça s'est passé?
Oui, c'est dans une entreprise.
Oui.
C'est La Farigoule, en fait. Ça
oui.
s'appelle La Farigoule. Et vu qu'il y a deux assistants sociaux... Mm-hmm. Grâce à une des assistantes sociales que j'ai pu connaître l'association Amado.
D'accord. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, sans rentrer bien sûr dans les détails qui vous regardent, c'est votre vie familiale, mais vous êtes retrouvée donc enceinte, vous aviez votre conjoint, n'est plus avec vous pour des raisons...
Non. Enfin, on n'était plus ensemble.
Oui.
Donc, du coup, j'ai su le 30 avril que j'étais enceinte.
Oui.
Mais en fait, j'étais enceinte le 27 mars.
D'accord.
Et je ne savais pas que j'étais enceinte.
Donc la séparation qui a eu lieu avec votre conjoint n'avait pas de rapport finalement avec votre grossesse.
Non, non.
Donc mésentente familiale avec votre conjoint. Vous êtes retrouvée seule et vous avez d'un coup, vous avez appris que vous étiez enceinte.
Oui.
Alors comment ça se passe à ce moment-là?
J'ai appris que j'étais enceinte, j'étais super contente.
Oui.
J'étais là et tout, je réfléchissais et je ne savais pas comment faire. Donc j'en ai parlé avec l'infirmière de mon travail.
Oui.
Je lui ai dit, pour l'instant, tu ne dis rien à personne. Je vais voir comment je vais faire et tout. Et elle a dit, mais dans tous les cas, il faut que je le dise à tout le monde que tu es enceinte et qu'on ne peut pas te garder dans une chambre. J'ai dit, ok, ben, pour l'instant, laisse-moi encore du temps.
Oui.
Et après, l'assistance sociale, elle a su, elle connaissait un peu tout ce qui est Amado et tout.
Mm-hmm.
Et du coup, j'ai visité avec elle. Et ça m'a plu et je suis restée.
Alors justement, quand vous avez appris que vous étiez enceinte, est-ce que le premier réflexe a été d'essayer de recoller, comme on dit, les morceaux avec votre ex-conjoint ou pas du tout? Vous êtes dit non, je suis enceinte, je ne lui dis pas.
Non, le 30, non. Je lui ai pas dit forcément, en fait.
Oui.
Donc je l'ai forcément dit après.
Donc vous lui avez dit après. Alors est-ce que justement le papa maintenant assume ou pas? Est-ce que justement ça n'a rien changé le fait de lui annoncer que justement il était le père de votre enfant?
Non,
ça n'a
rien changé non plus parce qu'il n'est pas venu aux échographies.
Oui.
Il n'a pas appelé pour savoir si le petit s'il allait bien dans mon ventre,
ouais.
Et tout. Donc, ouais.
Donc un papa qui n'assume encore pas, comme malheureusement beaucoup de cas, je vois Daniel et je vois Ilham qui hoche de la tête, des pères qui n'assument absolument pas la paternité ou ce qu'ils ont fait. Alors, contact justement avec l'association Amado. Alors, comment ça se passe cette première rencontre avec l'association Amado? Vous arrivez donc chez eux, vous êtes reçus. Comment ça s'est passé?
Ben, je suis reçue bien, comme toute personne.
Oui.
Donc, du coup, ils nous disent les règles, ils nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc, ça, c'est bien.
Mm-hmm.
Et aussi, dans les papiers, aussi, comme disait Ilham, quand on ne sait pas faire les papiers et tout, eh ben, ils nous aident. Ils nous aident à comprendre les papiers. Ils nous aident à aller à la mairie, parce que quand c'est la première fois c'est les gens qui fait les papiers à votre place, donc vous savez pas comment faire. Donc il faut qu'on vous montre comment le faire, comment remplir les papiers, comment faire des demandes, donc oui.
Alors Léa, justement, parlait de l'autonomie des femmes tout à l'heure. Vous étiez dans le monde du travail, puisque vous étiez salariée d'une entreprise. Est-ce que c'est vous qui, justement, preniez en main toute la partie administrative et gestion, ou c'était
non,
votre
non.
conjoint, justement, qui s'en occupait?
En fait, c'est vu que j'étais dans un ESAT, Ouais. C'est les aides qui prennent tous les papiers en main.
D'accord.
Donc moi, j'ai jamais, à part signer les papiers, sinon j'ai jamais. Enfin, ils m'ont déjà montré, mais je sais jamais faire les trucs.
Est-ce que l'association Abado, justement, qui va dans ce sens, vous rendre, vous émanciper, entre parenthèses, même si vous êtes majeur, justement, vous démontrer, vous aide à ce niveau-là? Est-ce que vous sentez maintenant prête, justement, plus pour pouvoir démarrer et gérer administrativement votre vie et familialement?
Ben, en fait, vu que je sais pas trop comment faire, donc oui. Non, pas forcément.
Donc, vous avez besoin encore de l'aide d'Amado?
Juste mais bon, que les papiers, en fait. Moi, j'aime bien me débrouiller tout seul, mais juste que les papiers, comment faire et tout, et après me débrouiller tout seul.
Alors Léa, moi je voudrais m'adresser à vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui en tant que femme et surtout en tant que maman d'un beau bébé de 2 mois? Comment vous vivez ça?
Franchement, c'est un bonheur de vivre avec un petit. Des fois c'est un peu compliqué parce qu'il pleure la nuit.
C'est un peu normal.
On ne sait pas comment il faut faire. Donc des fois tu es là, tu chantes des chansons. Tu fais plein de choses et des fois ça se calme, donc oui, c'est...
Alors, est-ce que vous vous sentez vraiment comblée aujourd'hui?
Oui.
Je le vois dans vos yeux, hein. C'est admirable, et vous avez un joli bébé en plus. Hein.
Merci.
Roubia Assia, donc éducatrice spécialisée. Léa, quand vous avez donc une maman comme ça qui vient chez vous, qui tape à la porte, qui demande de l'aide, l'évolution? Justement, parce que Léa, vous la suivez depuis combien de temps maintenant?
Depuis juillet, on est rentrés en même temps, Léa et moi.
Ouais. D'accord, donc depuis juillet.
On est rentrés le même jour.
Depuis
moi, j'ai
juillet.
Commencé le 9 juillet, Léa est arrivée le 9 juillet.
Et l'évolution donc de Léa?
On s'est vu évoluer toutes les deux, je crois.
Oui.
Mais oui, c'est une belle évolution. Ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, on a différents profils. On a effectivement des mamans, enfin des résidentes qui peuvent arriver parce que au domicile conjugal, c'est très compliqué. Donc, elles sont victimes de violences. Mais on a aussi des situations où on a des jeunes femmes qui ont juste une difficulté d'hébergement. En fait, elles sont toujours avec leur compagnon. Donc, on accueille encore des femmes où le compagnon est encore présent. Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de cas où il est plus présent, mais il y a des cas où il est présent, il faut le souligner aussi. Et des situations aussi comme Léa, effectivement, elle était à l'ESAT à Farigoul, donc il y avait un logement sur place et une fois enceinte, c'était plus possible de faire cet accompagnement à l'ESAT et du coup, l'assistante sociale nous l'a orientée. Donc Léa, effectivement, elle est passée, c'est ce qu'elle disait, elle a toujours eu l'habitude qu'on fasse à sa place, qu'on la guide un peu dans ses choix. Donc effectivement, quand on a vraiment senti, quand elle est arrivée à Amado, un une grande volonté d'indépendance. Et elle nous l'a bien fait savoir. Et c'était intéressant parce qu'effectivement, on tend vers cette indépendance-là, cette autonomie, mais à tous les points de vue. Effectivement, on parle d'autonomie, mais pour moi, l'autonomie, voilà, c'est pas qu'administratif. Il y a une autonomie, effectivement, où on sait faire ses papiers, tant mieux, mais une autonomie de pensée, vraiment, c'est une autonomie globale. C'est pour ça qu'aussi, on veut les ouvrir vers l'extérieur, on les amène vers des expositions, des choses comme ça, pour qu'elles aient une autonomie de manière globale. Mais on prend en compte les capacités, les compétences, les ressources, mais aussi, il y a parfois des freins, des limites. Et Léa, elle a fait beaucoup de progrès. Effectivement, d'un point de vue administratif, parfois, c'est encore un peu compliqué parce qu'il y a la compréhension de tout ce qui est administratif. Hein. On disait qu'en plus, ça change souvent. Donc, oui. Même pour nous, professionnels, des fois, il faut se mettre à jour à chaque fois. Mais non, elle a très bien évolué. Et puis, et surtout, quand on regarde son histoire de vie, elle a fait un grand pas, Léa. Et je la félicite, j'en profite pour la féliciter parce qu'elle va bientôt partir, là. Ça y est. Ah. Elle a trouvé un appartement et elle retourne à la Roque.
Et là, vous allez. Non, c'est plus vous qui allez pouvoir la suivre, la Roque d'Anthéron.
À la Roque d'Anthéron, non, mais c'est les travailleurs de l'ESAT qui prennent le relais. Donc, on essaie toujours de, justement, quand nous, on ne peut pas, de trouver des relais sur place. Donc, la PMI, les travailleurs de l'ESAT, voilà.
Donc, il y a tout un travail qui est fait. Et Léa, Hugo, donc, à 2 mois. Comme je disais tout à l'heure, René, vous posez la question, c'est que du bonheur?
Ah oui,
beaucoup. Ça change vraiment la vie, je vois.
Oui.
Ben pour Ilham, c'est quelque chose qui arrivera dans combien de mois, Ilham, pour vous?
D'ici 4 mois.
D'ici 4 mois.
Oui.
Donc là, pareil, vous allez rester sur l'association Amado, le temps d'eux et de la prise en charge. Et est-ce que vous avez un projet de vie par la suite, Ilham?
Bien sûr, d'avoir un appartement tout seul,
oui.
D'avoir un petit travail, m'occuper de mon bébé. Et voilà, c'est ça mon projet.
Votre projet de vie.
C'est ça. Après, on verra. C'est avec le temps.
Josie.
Oui, je voulais vous demander justement, est-ce que vous pensez déjà à ce qui va se passer après, vous aurez l'appartement et tout. Vous vous sentez vraiment prête pour affronter cette nouvelle vie?
Avant, vraiment, quand j'étais toute seule, je ne m'en voyais pas. J'étais perdue.
Vous avez fait un apprentissage, en fait.
Exactement. Surtout voilà, quand on a de l'aide.
Voilà, ce sera une nouvelle vie qui va s'ouvrir.
J'en avais besoin de l'aide.
Mais beaucoup de femmes, finalement, elles ne se rendent pas compte. Mais même si on s'entend très bien en couple, si tout va bien... Il peut arriver n'importe quoi, et puis un jour, on se sent perdu devant des... Même, vous savez, les administrations françaises, on connaît tous, hein, et on sait que c'est très souvent compliqué, comme le disait Alain, justement, ça change aussi souvent. Donc, le papier que vous avez su remplir l'année d'avant, ça a déjà changé cette année, donc il faut toujours réapprendre à suivre.
C'est ça, exactement.
Donc, c'est pour ça que quand vous allez effectivement être lâché dans la nature, si j'ose dire, il faut dire, bon, ça y est, cette fois, je suis toute seule, mais j'y vais, je fonce.
Ça voilà. y est, c'est ça.
Eh bien, écoutez, bonne continuation. On n'en est pas encore là, mais bonne continuation.
Merci. Ça va y arriver.
Alors, sans transition, Daniel, édition 2019, Semaine des droits des femmes à Carpentras, Femmes solidaires, dont tu es la présidente aussi de l'association.
Non, je ne suis pas la,
t'es pas la présidente
de Femmes solidaires, c'est Madame Filose.
Madame Filose, tout à fait.
La secrétaire et la petite main.
La petite main qui fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est la donc édition 2019. Nous en sommes à combien de... Ça fait combien d'années que cette semaine des droits des femmes...
Cette semaine des droits des femmes, elle a plus de 20 ans. Hein. Sauf qu'elle est beaucoup plus active, disons, depuis 5-6 ans, puisqu'on a mis en place pas mal de choses. Mm-hmm. Peut-être aussi l'apport que je peux avoir par les liens justement que j'ai avec les uns avec les autres et les associations avec qui j'ai des liens affectifs mais aussi des liens humains et de partage, ce qui n'est pas le cas avec tout le monde associatif. Il faut que vous sachiez quand même que le monde associatif est un monde qui est difficile.
Oui.
Et quelque part, quand on rencontre des partenaires de cette qualité comme on a avec Amado ou d'autres associations de proximité, il faut savoir en reconnaître la valeur. Et le témoignage de ces deux jeunes femmes sont là pour le dire. Elles sont, ce que j'aime chez Amado, c'est qu'on n'est pas dans l'assistanat, on n'est pas dans le remplacement, on est dans une certaine rigueur, dans une certaine règle de vie et aussi une préparation psychologique. Et on est attentif, mais on leur dit bien, on ne va pas tout vous mâcher. Ça doit aussi venir de vous. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on ne soit pas là, moi qui fais de l'humanitaire à l'étranger, je dis toujours, je ne suis pas là dans l'assistanat. Je suis pour vous aider, mais pas remplacer. Rien ne remplacera votre dynamisme, votre désir d'avancer et votre autonomie. Et je pense que, intervenant souvent dans des écoles maintenant, dans les lycées, même primaires, à partir des droits de l'enfant et aussi des droits des femmes, je crois que très tôt, aujourd'hui, on doit dire aux femmes, aux filles, mais aussi aux garçons, que l'autonomie est extrêmement importante et qu'il ne faut pas toujours attendre des autres. Il faut aussi trouver en soi. Ça, c'est extrêmement important. Et je crois que cette éducation de se préparer à la vie, qui n'est pas un long fleuve tranquille, parce que si c'était vrai, on le saurait. Et je pense que quelque part, il faut vraiment être prêt. Et là, tu disais tout à l'heure que tu avais encore du mal à t'occuper de tes papiers. Parce que quelque part, tu avais décidé que ça ne t'intéressait pas, que ça te gonfle un peu.
C'est parce qu'en fait, toute petite, depuis que je suis arrivée en France, ben en fait ils ont fait que ça, s'occuper de mes papiers. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas forcément appris étant toute petite quand je suis arrivée en France en fait.
Maintenant t'es plus petite et quelque part je pense qu'aujourd'hui il faut que tu prennes en main pour ça, même si ça change très souvent. Je pense que quelque part cette autonomie elle est extrêmement importante.
Oui.
Parce que ça te permet d'avoir un logement, d'aller faire tes démarches au point d'électricité, l'eau ou aller dans une épicerie sociale et autres, pas attendre. Moi je suis pas dans l'attentisme, je suis quelqu'un au contraire qui suis plutôt
pour
l'avancée.
Pour faire mes courses, oui, je me débrouille. Hein.
Oui, parce
que
tu es débrouillarde et tu as en toi cette énergie, je le sens bien. Mmh. Et puis tu as assez... vous n'allez pas me casser les pieds. Hein, je saisis très vite, tu sais, rien que dans le regard. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que tu sois dynamique, indépendante, libre et tout. Je pense qu'Emane aussi, elle dit, va aller peut-être un peu plus doucement. Il y a aussi votre culture qui est derrière. Mmh. Et c'est aussi important de dire, est-ce que notre culture va nous donner du plus ou nous donner du moins?
Ça dépend. Ça dépend des moments.
Je pense aux deux dames qui sont d'origine de culture maghrébine, qui est mon cheval de bataille, puisque moi je suis très présente au Maghreb. Et je pense que cette culture, quelquefois, elle vous met en retrait d'être femme. Vous devez être fière d'être une femme, et ce n'est pas toujours le cas, puisque quelque part on vous abaisse, on ne vous permet pas d'eux.
Oui, bah en fait, quand on est chez nous, dans notre pays, on sait très bien quoi faire, on sait d'où, avec qui parler, de demander, faire les papiers, tout ça. Mais quand on change de pays, c'est pour quelqu'un en fait. On change de vie, on s'éloigne de la famille, on s'éloigne de tout. C'est là où on se retrouve soumise, en fait. C'est les cultures, c'est... ça y est, t'es mariée, tu suis ton mari, tu fais ce qu'il dit, faut le respecter, faut faire ça. Il y a trop de règles qui se posent. Et c'est là où on perd le repère. Surtout
on perd le fil.
Oh, c'est ça, exactement. On perd le fil.
C'est vrai qu'Ilham, dans son histoire de vie en Maroc, elle travaillait, elle avait une autonomie financière, une autonomie même vis-à-vis de ses parents. Et c'est vrai que souvent, c'est le passage, c'est quand on se marie qu'il y a quelque chose un peu qui c'est comme une qui s'arrête, exactement. On fait abstraction de la vie d'avant et c'est une nouvelle vie. Et maintenant, c'est souvent le conjoint qui dicte. Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive assez fréquemment.
Ouais. C'est à la fin, quand tu te retrouves toute seule, il n'y a plus ton mari, il te jette, il n'accepte pas ton bébé et il ne veut pas, et ça y est, tu te retrouves toute seule.
Et parfois, il n'y a plus les familles, parce qu'on se dit, on dit à la femme, mais c'est de ta faute, c'est toi qui n'as pas su...
C'est toi qui as choisi.
Voilà, c'est toi qui as choisi, ou c'est toi qui n'as pas su garder ton mari, ou tu aurais dû te taire et continuer.
Exactement.
Et effectivement, elle se retrouve, mais totalement seule, sans mari, sans famille, sans amis. Mais parfois, heureusement aussi, et je tiens à le souligner, il y a, malgré cette rupture avec le conjoint, il y a encore la famille qui est présente, même si elle est à l'étranger, mais elle reste un soutien psychologique pour elle. Voilà, il y a vraiment ces deux cas de figure.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui, ça va venir. Allez, lâche-toi.
C'est pareil que moi, j'ai travaillé dans l'administratif plus de 15 ans d'expérience dans l'administratif. Mes parents n'étaient pas d'accord.
C'est ça.
Voilà.
C'est notre choix.
Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas comment je vis. Même si je leur parle, je leur dis je suis bien.
On est obligé de cacher. On est obligé de ne pas dire toute la vérité. Parce que c'est blessant.
C'est mon choix. Je suis en train de prendre sa responsabilité.
C'est ça.
Mais alors là, on ne parle plus d'émancipation de la femme. Là, la femme, elle passe au troisième degré. Et c'est ça qu'il faut combattre. Nous sommes égales aux hommes. Nous sommes égales dans le domaine de l'activité. Les salaires ne correspondent pas aux salaires des hommes. On combat ça. Il faut qu'on ait notre autonomie, mais à 100% par rapport aux hommes. C'est-à-dire que dans un foyer, il y a 50-50. Aujourd'hui, il y a des papas qui gardent leurs enfants pendant que leurs femmes travaillent. Mais ça, je trouve ça magnifique. L'égalité des salaires, l'égalité dans le monde, c'est ça qu'il faut combattre. On est des femmes, nous sommes là, c'est nous qui donnons la vie quand même, faut pas l'oublier. C'est la femme qui élève à 80% les enfants. Il y a des femmes chefs d'entreprise qui sont très maltraitées par la hiérarchie qui est encore plus haute. Je parle des hommes politiques qui voient les femmes comme des poupées Barbie. Et ça, je suis pas d'accord. Nous sommes des femmes, on se respecte en tant que femme et on doit être respecté par les hommes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
C'est déjà pas mal.
Je suis bien d'accord.
Bravo. Il nous reste, on arrive presque au terme de cette émission. Alors Daniel, j'aimerais que tu nous parles justement un petit peu, que tu nous présentes. Alors bien sûr, les événements ont démarré depuis le 4 mars. Nous sommes le 8. Alors tu peux parler de ceux qui sont déjà passés, si tu le veux. Et bien sûr, mais l'important, c'est de nous présenter ce à partir du 8 mars d'aujourd'hui. Donc.
Eh ben, ce qui s'est passé, je pense que cette année, c'était important que l'on puisse faire appel à des associations qui parlent, par exemple, comme Vivre Femmes, des pervers et des pervers narcissiques, parce que la plupart du temps, beaucoup de femmes dépendent de ce genre d'individus. Il y a des rencontres avec une sage-femme qui travaille à Carpentras et qui parle aussi du déni de grossesse et des problèmes de grossesse aujourd'hui pour les femmes. Et Belinda Cannon qui parle de la tentation de Pénélope et elle qui a une vue très précise de ce qu'est une femme. Elle est très féministe. Elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfant, c'est aussi un choix de vie. Il y aura eu la présence d'une conférence de Maître Gégère, qui est quelqu'un qui est très présent sur les ondes, mais qui défend la cause des enfants et des femmes avec force, et qui est un ami, et qui a donc fait une conférence. Et il y a une autre avocate, et il y aura aussi une éducatrice spécialisée qui est dans le monde, qui vient de quitter le monde éducatif, parce qu'elle trouve que ce qui se passe dans certains foyers ou dans certaines maisons d'accueil ou autres est à dénoncer, parce que des aides sont données par le conseil général ou régional, mais pas toujours dans le bon sens et au bon moment et au bon endroit. Et puis il y a le cinéma, là, ce 8 mars, le cinéma Rivoli qui est toujours présent avec nous et qui fait toujours un très très beau travail. Donc deux films, bien entendu, sur la cause des femmes encore, avec au milieu un petit arrêt, petit goûter, quoi, petit repas. Et puis on continue un petit peu jusque plus tard, jusqu'au 11 mars. Et il y aura une suite au Salle Voûté, où il y aura une association qui travaillera encore sur le droit des femmes. Cette année, ce sera deux semaine complète sur la Convention des droits des femmes, enfin sur les droits des femmes, et j'ai rajouté, je disais, la Convention des droits de l'enfant, parce que moi je ne dissocie pas la femme, la mère et l'enfant. Et cette année, vous savez qu'aujourd'hui, la cause des enfants, la maltraitance des enfants est quelque chose, est un fléau national et international, mais aussi national, hélas.
Oui, Josie, merci, Daniel.
Oui, alors sans oublier, comme depuis lundi et toute la semaine, il y a la mise en avant de la littérature féminine et des femmes à la bibliothèque de musée de Linguimbertine, à l'Hôtel Dieu et à la librairie de l'Horloge.
Merci de ce petit rajout. Précision aussi concernant les violences. Il y a un numéro, c'est Violence Femmes Info, on peut le rappeler, c'est 3919. Il est anonyme et gratuit. Donc si vous subissez, parce qu'on parle de violence, si vous subissez des violences, n'hésitez pas. Donc Violence Femmes Info, 3919, anonyme et gratuit. Quelques chiffres aussi peut-être sur les violences, Josie.
Oui, alors malheureusement, on dénombre 219 000 violences aux femmes, physiques et ou sexuelles ou verbales.
Annuelle.
Toutes les formes de violences.
C'est par an.
Oui, par an. Et il y a quand même eu en 2017 130 femmes qui ont été tuées sous les coups, certainement de leur conjoint ou ex-conjoint.
Il y a un petit chiffre, même si on parle beaucoup des femmes, je suis le seul homme autour de la table, je le donne aussi, c'est les 29 hommes qui effectivement eux aussi subissent. On n'en parle jamais, peut-être faire une émission un jour sur les violences faites aux hommes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup beaucoup des femmes, c'est beaucoup plus important, hein. C'est même lamentable, mais bon, c'est comme cela. Mais il y a aussi des hommes, il y a eu 21 hommes qui sont décédés sous les coups de leur conjointe, ex-conjointe, et des fois il y a même des enfants qui s'y mêlent aussi également, qui sont dans la famille, qui tapent aussi sur le père.
Je parle de la maltraitance vis-à-vis des enfants, on parle toujours des pères qui font subir des violences sexuelles aux enfants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des mères,
oui,
qui font subir à leurs enfants ce genre dont on ne parle pas, mais qui existe, hélas.
Hélas. Merci en tout cas à toutes, je peux dire toutes, parce que je suis le seul homme. Merci René.
Merci Alain, merci à toutes.
Merci Josie.
Merci
Mounia. Merci surtout à nos invités. Donc merci à... Hop, je tourne ma petite page. Merci à Ilham, résidente actuelle à l'association Amado. Merci de ce témoignage. C'était pas évident de venir témoigner, mais c'est super sympa en tout cas de l'avoir
merci
fait.
À vous.
On a apprécié. Merci Léa, avec bien sûr Hugo, qui est venu témoigner aussi, qui est résidente actuelle à l'association Amado. Merci à Madame Roubia Assia, qui est éducatrice spécialisée à l'association Amado.
Merci à vous.
C'est toujours un bonheur de recevoir votre association, effectivement, et d'en savoir un petit peu plus. Et très longue vie à votre association également.
Oui, on l'espère.
Merci. Et merci à Daniel de l'association AED Karine Mann et également la secrétaire, la petite main de l'association Femmes Solidaires pour déjà tout ce que tu réalises. On se croise très souvent au niveau de la radio. On te croise sur plein d'événements. Et vraiment, ce que tu fais, continue à le faire, parce que c'est vraiment, je sais que c'est très pénible, très fatigant. Mais bon. Derrière, on sent que tu as.
Je crois qu'on peut en faire fi quand on voit le résultat qu'on vient de faire.
Merci en tout cas à tout le monde. À très bientôt. Oui, René Vichet.
Et bonne fête à toutes les femmes pour ce 8 mars.
Et oui, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci.
Au revoir.
Vous venez d'écouter Paroles de femmes, le rendez-vous pratique pour aider les femmes à mieux vivre leur quotidien. Cette émission a été réalisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Ventoux, Comtat-Vénessin et la ville de Carpentras.